maintenant. Voilà, et je passe la parole à Martin Braun.
Merci. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue ici dans cet espace virtuel. Et je veux bien commencer par une citation. C'est une citation d'Al Gore. À l'ère numérique, la vie privée doit être une priorité. Et c'est juste où la surveillance générale des services secrets est-elle obscure et scandaleuse? Cette ère numérique est présente dans notre société. Bien sûr, la numérisation a conscience beaucoup d'avantages et de soulèvements, où les aspects négatifs ne sont pas négligeables. Ces risques de la numérisation font débat dans notre société et la littérature fait office du miroir de cette société. Ainsi, nous proposons un atelier débat autour de la question dans quelle mesure les risques de la numérisation sont-ils présentés dans la littérature contemporaine? Suivant l'encadrement de l'appel à projet Digital Utopie, lancé par le Bureau de la coopération universitaire de l'Institut français d'Allemagne et l'Université franco-allemande. Nous, un groupe d'étudiants inscrits ici à la Faculté des langues de l'Université technique de Dresde, nous organisons une série de débats ou un atelier débat autour des questions clés concernant la numérisation à l'époque actuelle. Notre groupe s'est formé dans le cadre du séminaire Utopie Europa, ayant commencé ce semestre d'été 2020 dans le département de français de la faculté. Et maintenant, je me réjouis beaucoup d'avoir de la chance de discuter avec les débatteurs renommés. Je souhaite la bienvenue à Otsenje. Otsenje est une auteure francophone de Genève. Elle est titulaire d'un master en littérature française et aussi en bachelor en civilisation. Elle a publié les romans et récits très poétiques, par exemple comme Les Chroniques de l'Occident nomade en 2011, Les Neiges de Damas en 2015, ou en 2017, elle a publié une toile, Large comme le monde, qui traite des aspects négatifs de la numérisation, ce qui est prédestiné pour notre débat aujourd'hui. Elle a reçu aussi le prix Nicolas Bouvier pour les Chroniques de l'Occident nomade. Moi, j'ai lu cette œuvre dans le contexte d'un séminaire et je suis toujours ravi. Et la maître de conférence de ce séminaire, c'était Martina Stemberger. Si, bienvenue, Madame Stemberger. Martina Stemberger est spécialiste de la littérature de la Université de Vienne. Elle a effectué les séjours d'études, entre autres à Paris, à Berlin et ici, chez nous à Dresde. Et dans le centre de ses recherches, c'est entre autres la littérature francophone du 20e et du 21e siècle, les études des genres et, bien sûr, la littérature de voyage, comme les chroniques de l'Occident nomade. À la fin, je salue pareillement les étudiants qui participeront au débat. C'est M. Sebastian Nerger, Université de Dresde, bienvenue, et aussi Mme Klaus, Université de Dresde. Et finalement, Thorsten König, qui accompagne notre projet de la part des enseignants de l'Université de Dresde. Bienvenue à vous. D'accord. Nous voulons commencer. Ma première question, c'est à Otsenje. Otsenje, vous racontez dans votre roman l'histoire de quatre jeunes qui décident de mener une existence hors de la toile, de se déconnecter du World Wide Web. Est-il possible à l'époque actuelle de concevoir la vie d'un adolescent coupé de la toile?
Je pense que c'est possible de concevoir cette vie-là, que ce soit un adolescent ou un adulte, mais c'est quand même très, très... C'est faire des choix très, très radicaux. Dans ce roman, l'idée était plutôt qu'une condamnation complète de confronter en fait des situations où le numérique peut apporter quelque chose de positif et des fois peut-être dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle apporter au contraire des obstacles et de lister un petit peu toutes les situations qui nous où on se retrouve en fait où notre usage du numérique est contradictoire, en fait, et nous sert et nous dessert suivant les situations. J'avais listé, c'était le, enfin, l'idée première était de parler d'Internet, et puis le processus était assez long, parce que voilà, c'était beaucoup trop vague, et puis j'ai petit à petit restreint à la matérialité d'Internet. Et voilà, c'est, quand j'ai découvert par exemple ces câbles qui passent sous l'océan, etc., j'avais l'impression qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui parlaient du côté plutôt sociologique ou psychologique, des neurosciences, etc., de l'impact d'Internet sur nos vies, et j'ai pas cette formation-là. Et c'est pour ça que j'avais voilà, quand j'ai découvert voilà, ce côté très physique et matériel, ça m'a intéressé. Je trouve paradoxalement quelque chose d'assez poétique, dans le matériel, justement, qui faisait lien aussi avec mes autres livres, et puis qui m'a permis de, voilà, écrire ces scènes de câbles sous l'eau et de placer des sortes de mini récits de voyage dans un roman qui en fait parle de technologie. Donc voilà, je pense que pour revenir à la question de s'extraire de ce système-là, je voulais que mes personnages soient tentés de s'en extraire parce que je pense qu'on l'est tous, on est tous submergés en fait par le numérique qui en plus notre usage change tout le temps donc on n'a pas le temps de s'adapter. Donc je voulais que mes personnages aient cette tentation et chacun un conflit intérieur entre ce que ça leur apporte ou pas, mais pas il y a cette dernière partie qui est comme une sorte d'épilogue dans un monde post-internet. Je voulais pas trop bucolique non plus, je voulais que voilà, parce qu'à mon avis c'est pas réaliste en fait d'imaginer que couper internet ce serait revenir à un monde pré-internet, parce qu'on revient jamais au monde d'avant. C'est un peu un débat qu'on a souvent en ce moment, mais donc voilà, je pense que des personnages qui voudraient s'en extraire, c'est quelque chose de très radical. C'est vivre en ermite dans une grotte, se couper de tout soins médicaux, de toute vie sociale, bien sûr. Enfin, voilà.
Oui, merci beaucoup. Et je vais poser la même question à Madame Stemberger. Qu'en avez-vous ? Est-il possible à l'époque actuelle de concevoir la vie d'un adolescent coupé de la toile ? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
C'est très théoriquement possible, je pense. Il y a des expériences romanesques à cet égard. On pourrait penser par exemple aussi à Apocalypse bébé de Virginie Despentes, où nous avons justement cette adolescente Valentine qui essaie vraiment et il y a cette tentative d'une abstinence digitale le plus radicale qui est vécue d'abord comme une amputation, même d'une brutalité inattendue, mais quand même, cela se situe néanmoins par rapport justement à une société numérisée. Et par rapport à ce que Hudson vient de dire, oui, c'est quelque chose qui me frappe aussi vraiment beaucoup dans votre roman, c'est justement cette force poétique, cette actualisation poétique d'un imaginaire technologique aussi. Hein. Et on reparlera peut-être tout à l'heure un peu de ces métaphores que vous filiez d'un bout à l'autre du texte, de votre structure narrative aussi, parce que là, on peut se poser la question jusqu'à quel point cela reflète vraiment d'emblée aussi le sujet en question. Théoriquement, oui, c'est peut-être possible pour répondre encore à votre question, Monsieur Brown, mais c'est quelque chose, on ne ressortira plus du monde digital. Hein. Donc, il y a des tentatives, des expériences romanesques, etc., mais les auteurs, évidemment, ne poussent pas la naïveté jusqu'à croire possible ce retour à un monde d'avant, ce retour à un monde analogue d'avant. Mais de toute façon, on peut essayer de garder quand même les aspects, les côtés positifs du monde, si vous voulez, que ce n'est pas une dichotomie artificielle qu'il faut perpétuer. Hein. Il y a parfaitement cette coexistence aussi du livre papier, du livre numérique, de l'écriture sur ordinateur et l'écriture à la main, ceci dit, comme si on n'écrivait pas à la main lorsqu'on utilise un clavier. Hein. C'est quelque chose que vous montrez très très bien dans votre roman, cette fausse dichotomie, cette fausse opposition en scène justement entre la spiritualité, la matérialité, le corps et l'esprit, des choses qui sont bien sûr très profondément ancrées aussi dans la pensée occidentale, mais qu'il s'agit là aussi un peu de dépasser. Et c'est à mon avis vraiment l'un des grands mérites de votre roman que de l'illustrer, cette matérialité du virtuel, cette présence virtuelle, cet impact matériel, social, environnemental, qu'il s'agit aussi de considérer dans ce perspective politique et sociale aussi en ce qui concerne ces structures post-néocolonial, on reparlera peut-être de ce mini-récit de voyage que constitue cette excursion dans la province chinoise sur le lac toxique de Baotou, etc. et toutes ces choses-là. Mais pour l'instant, je vais en rester là. On reviendra peut-être sur certains aspects ferrés.
Merci beaucoup. Et bien sûr, je vais aussi demander à M. König, qui est aussi spécialiste de la littérature. Monsieur König, voulez-vous ajouter quelque chose? Ou non?
Oui, voilà, parce que j'avais un problème avec les micros. Maintenant, je peux répondre. Non, en fait, je voudrais plutôt adresser la parole aux étudiants, enfin aux participants de la discussion qui sont le soi-disant digital natives et donc qui sont nés dans un monde où l'Internet existait déjà, parce que pour moi ce n'était pas le cas, donc ils sont nés dans un monde qui est déjà marqué par la numérisation d'une façon très visible. Donc, Sébastien, est-ce que c'est possible pour vous de concevoir une vie déconnectée de la toile, du réseau Internet?
Je crois que c'est vraiment difficile et je suis tout à fait d'accord avec Madame Stemberg qui a dit que on ne se ressortira plus de la toile parce que c'est impossible à mon avis. Après, je crois quand même, et surtout dans une époque ou dans une période qu'on en a aujourd'hui, où on est surtout à l'université assez souvent maintenant ce semestre devant l'écran, devant l'ordinateur, je crois quand même on cherche vraiment des périodes, on cherche aussi quelques heures pour ressortir de la toile et d'aller dans la nature. Mais ça ne veut pas dire qu'on ressort complètement de la toile. Par contre, on essaie quand même de s'extraire, peut-être de trouver d'autres possibilités pour pas être fixé sur la toile. Et je sais pas si Cassandra Klaus veut ajouter quelque chose, mais à mon avis, c'est à peu près ça.
Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi, Sébastien. Pour moi, c'est presque impossible de vivre sans des choses électroniques, parce que pour moi, en ce moment, je travaille avec du papier et en même temps, je travaille aussi avec mon ordinateur, parce que travailler dans une coexistence des deux, c'est pour moi la meilleure possibilité d'apprendre quelque chose ou faire quelque chose, par exemple, avec des autres personnes, avec des élèves. Pour moi, c'est presque impossible de vivre sans des choses électroniques. Oui, c'est ça.
Je peux me permettre d'ajouter quelque chose, en fait. Ce qui me frappe aussi un peu, c'est la constellation, si vous voulez, un peu paradoxale de ces débats, n'est-ce pas, plus au niveau, puisqu'en effet, nous reproduisons dans le cadre de cette rencontre en ligne, qui dans les circonstances actuelles, après tout, ne saurait avoir lieu en dehors de ce dispositif digital, ce beau paradoxe sur lequel se construit votre roman, Haute-Seine. La réflexion critique sur les ambivalences, les dangers, les risques de la numérisation, la rébellion, la résistance aux technologies digitales qui inévitablement passe par, se sert de ces mêmes technologies. La grande panne dans votre roman s'organise bien évidemment via Internet. L'un de vos personnages consulte un tel site qui a tout simplement pour thème principal le fait d'éteindre Internet. J'ai un peu recherché moi aussi et en fait cela existe, des sites consacrés au sujet « How to destroy Internet » et tout le reste. Et bref, de toute manière, c'est vraiment quelque chose que nos collègues viennent aussi de souligner. De toute manière, c'est une entreprise illusoire que de vouloir sortir du digital pour avoir un certain impact, une certaine pertinence sociale et politique à la réflexion, la discussion critique sur la numérisation, la résistance à d'éventuelles mesures et des technologies problématiques continuera évidemment à se manifester et à s'organiser par Internet, par les médias digitaux. Hein, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans votre roman et qui se reflète aussi un peu dans notre constellation, dans notre débat d'aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose que je voulais ajouter à ce propos.
Oui, tout à fait. Oui. C'est le grand paradoxe que je rajoute en général à la fin d'une table ronde quand j'ai les gens en face de moi, c'est que j'aurais pas pu écrire ce livre sans Internet. Quand je parle de mini-récits de voyage, maintenant j'écris aussi sur des voyages que je n'ai pas fait, mais que je fais sur Google Maps. Voilà, ce genre de choses. Et s'il y avait un message là derrière, c'est peut-être pas de se passer d'Internet, mais de penser Internet autrement, ce qui est beaucoup plus intéressant.
Voilà. Absolument. Et en fait, votre texte ne se limite pas du tout à une simple dénonciation du numérique. Hein. Ce n'est pas du tout d'ailleurs un roman à thèse qui véhiculerait un message simple et univoque, mais c'est un roman qui pointe certaines questions cruciales de la société de nos jours, les risques aussi de la numérisation, sociaux, écologiques, collectifs comme individuels, de l'impact écologique à ce burn-out numérique dont souffre d'un de vos personnages. Mais même si le texte problématise de manière lucide certains risques réels de la numérisation, il illustre en même temps, on l'a mentionné tout à l'heure, ces énormes avantages pratiques. Et aussi, ce que je trouve encore plus intéressant peut-être, la séduction esthétique de ces configurations de réseau, même de cet excessif flux digital à peine maîtrisable, l'individu risque un peu de se noyer, mais qui se reflète aussi, je trouve, dans la structure même du texte. Ainsi, lorsque vous évoquez l'un de vos personnages, Pénélope, qui me plaît beaucoup hein, comme réincarnation de ce personnage mythologique, évidemment, cette développeuse web programmeuse qui l'a venue se transforme en hackeuse, qui défait la tapisserie virtuelle qu'elle a construite dans la journée. Actualisation poétique, bien sûr, aussi de cette métaphore du web. Et c'est un personnage qui incarne l'ambivalence, je dirais, même du et envers du digital. Et lorsqu'elle parle de sa passion pour la programmation, elle insiste aussi sur sa dimension quasiment philosophique, hein, lorsqu'elle parle de ses possibilités de décomposer la pensée. C'est quelqu'un qui est vraiment déjà incorporé et intégré ce dédoublement digital. On reparlera peut-être aussi des configurations, de reconfiguration du sujet humain et narratif dans votre texte. Mais justement, la partie finale de votre roman, surtout, je trouve, constitue aussi une espèce de mise en garde, si vous voulez, non seulement contre les risques de la numérisation, mais aussi contre les risques qu'il y a à vouloir trop naïvement se débarrasser du digital. C'est aussi un aspect frappant dans votre roman, cette naïveté, l'aveuglement de vos personnages, pourtant si lucides à d'autres égards, hyper connectés dans la vie privée comme professionnelle, mais qui, dans la rébellion personnelle contre le numérique, négligent complètement les conséquences, pourtant pour la plupart prévisibles, de la projet de sabotage, des projets de la grande panne, ce projet de détruire Internet. Hein. Et en fait, on l'a dit tout à l'heure, vous illustrez vraiment de manière très très plastique cette matérialité du virtuel, d'un Internet qui s'avère physiquement fragile. Et vous avez aussi tout à fait raison, à mon avis, de constater que c'est quelque chose dont la plupart du temps, on se rend très peu compte. Une chose à laquelle on a vu peut-être pas trop penser parce que c'est quand même aussi quelque chose d'inquiétant. Donc de toute façon, vous pointez certains risques très réels de la numérisation, mais ce n'est pas du tout une dénonciation trop simpliste du phénomène. Hein. Cela véhicule vraiment cette ambivalence du phénomène digital, cette ambivalence qui marque aussi profondément le rapport de tous vos personnages, sans exception, envers le digital, envers l'Internet.
Oui, je vous avez, enfin, c'est très, je suis très flattée de tout ce que vous dites. Ça me semble tout à fait dans la lignée de ce que j'ai voulu faire, en tout cas. Donc, j'ai rien à rajouter là sur sur votre analyse.
Ouais. Je suis contente de bien avoir saisi parce que votre texte. Même peut-être aussi.
Mais il y a beaucoup de choses, donc on revient presque à la toile parce qu'il y a beaucoup de fils là qu'on pourrait tirer par rapport à ce que vous venez de dire.
Ouais. Oui, merci beaucoup. C'était très intéressant. Et nous continuons maintenant dans le rouge et le noir. C'est le sujet maintenant. Dans le rouge et le noir, Stendhal formule une définition du roman qui estime que un roman, c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin. Et pour votre roman, Madame Seigneur, Une toile large comme le monde, dans le texte de présentation du livre, nous lisons « Ce roman est un génial selfie du monde contemporain dans lequel virtuel et réel sont toujours plus intriqués. » Et, Haute Seigneur, quels sont les traits principaux de l'image que ce selfie ou bien ce miroir, parlons avec Stendhal, nous donne?
Alors, je dois dire que l'image du selfie, elle n'est pas de moi, elle est de mon éditrice. parce que, bon, voilà, pour des raisons éditoriales, c'est toujours pratique d'avoir quelques formules un petit peu marquantes qui résument le livre. Et donc, les traits principaux de ce miroir. C'est bien ça votre question. les caractéristiques, en fait. De...
Oui, j'ai demandé après votre roman, mais on peut aussi poser la question très, très générale. Après la littérature contemporaine, est-ce que, qu'on avoue, la littérature contemporaine fait office du miroir de notre société?
Alors, oui, bien sûr, mais je pense que c'est un miroir partial d'abord, parce que c'est en fait, on utilise l'image du miroir, mais c'est d'abord un regard, c'est le regard de l'auteur qui a une certaine formation, qui a une certaine vision, qui va lier des choses qu'une autre personne ne lira pas, comme on le fait tous à partir de ce qui nous constitue. Et puis, c'est aussi un miroir partiel, parce qu'en fait, quand on prend la technologie par rapport à l'importance que ça a dans nos vies, je trouve que c'est quand même très peu présent dans les romans contemporains. En tout cas, les romans écrits en français, alors ça change quand même, mais au début où j'ai fait le projet de ce livre, ça fait presque 10 ans maintenant, enfin, depuis 2012, quelque chose comme ça, je me rappelle qu'il y avait un article dans Le Monde qui parlait des réticences, en fait, des auteurs en langue française à faire apparaître la technologie dans des romans. En fait, par rapport à l'usage qu'on en fait, au fait que déjà, depuis 6-7 ans, on a tous un smartphone dans notre poche en permanence, qu'on est, comme vous disiez, toujours connecté voilà, pour toutes nos activités, que ce soit personnel, regarder des films, de la musique, travailler. Par rapport à cette importance-là, je trouve que c'est peu représenté dans les romans. Et donc cet article, mais il y a déjà 10 ans, et c'est pour ça que je dis que c'est quand même en train de changer, disait en fait pourquoi cette absence. Et bah, je pense qu'il y a une raison un petit peu historique qui fait que, de manière générale, la technique dans un roman, c'est pas quelque chose de séduisant pour le lecteur. C'est pas, ça nécessite des capacités un petit peu de vulgarisation de la part de l'auteur, de vulgarisation scientifique. Longtemps, c'est quelque chose dont on se moquait un petit peu. Si on prend les scientifiques, enfin les savants chez Molière, ils ont toujours ce côté risible. Voilà, si chez Flaubert, on a Bouvard et Pécuchet, alors on est un petit peu plus dans la nuance, mais il y a voilà que la technique devienne un objet sérieux dans la littérature. J'ai l'impression que c'est difficile, en fait. Et voilà, je c'est aussi bah, un petit peu comme montrer du codage à quelqu'un qui programme au cinéma. On ne sait pas tellement comment faire, à part faire montrer des lignes de code et des choses comme ça qui ne sont pas très séduisantes visuellement. Ce n'est pas très sexy comme ça de montrer ça. Donc, j'imagine qu'il y a des thèmes et des supports qui ont une sorte de... où la jonction est difficile à faire, en fait. Et voilà, moi, c'était par exemple un des gros retravails du texte avec mon éditrice. C'est qu'elle m'a dit... l'éditeur est aussi là pour donner le regard du lecteur lambda et dire moi je vais avoir des gens de 20 ans qui vont lire ça, mais je vais avoir des gens de 65 ans qui utilisent peut-être moins l'ordinateur, qui sont moins familiers de ce vocabulaire là comment est-ce que où est-ce qu'on met la barre sur ce que le lecteur est censé savoir ou pas du monde qui l'entoure. Et donc voilà, il y a des défis en fait qui sont propres à ce thème là au thème technologique quand on le place en littérature. Après moi je pense que la littérature fait ce qu'elle veut. C'est bien pour ça que, enfin, on écrit et on n'est pas justement dans l'académique ou dans une recherche qui est soumise à des règles. Mais que moi, ce qui me semble intéressant, c'est évidemment de donner un point de vue sur quelque chose, de mettre en lumière quelque chose qui n'est, ça n'a pas besoin d'être inédit, mais qu'au moins que le regard qu'on porte là-dessus apporte quelque chose de nouveau. Et voilà, pour la technologie, il y a beaucoup à faire.
Oui. Merci beaucoup. Oui, mais Sébastien Nerga.
Moi, j'ai une question. Alors, d'abord, je suis tout à fait d'accord que la présence dans la littérature par rapport à la technologie, ça manque, mais de plus en plus, ça se développe de plus en plus, à mon avis. Ici, je me permets de comparer, par exemple, Julie T. en Allemagne, qui aussi écrit des romans assez critiques. Si je vois, par exemple, le Corpus Sélique, des romans comme ça, je trouve quand même dans les... depuis quelques années, la présence se développe de plus en plus, à mon avis. Surtout en Allemagne, en France, je ne sais pas trop, mais à mon avis aussi. Et je me demande quand même pourquoi la présence ou la critique aussi dans les romans, ça vient maintenant. Est-ce qu'on s'aperçoit de plus en plus des inconvénients et avant, on a vu seulement les avantages? Ou pourquoi à votre avis, Mautzen, pourquoi maintenant on commence de plus en plus avec la présence dans la littérature?
Ben, je pense qu'il y a, plusieurs effets qui concordent. Là, il y a peut-être le fait aussi d'une, déjà de la rapidité en fait de ce procédé. C'est-à-dire que j'ai entendu qu'on comparait volontiers la révolution numérique à l'invention de l'écriture et l'apparition de l'imprimerie comme trois moments d'avancer vraiment dans le langage comme ça. Mais la différence avec cette révolution numérique, c'est sa rapidité. C'est que voilà, l'imprimerie s'est pas diffusée en quelques années partout dans le monde. Et là, on est vraiment face à quelque chose de très très soudain. Où quand on pense que le premier smartphone est arrivé en Europe, sauf erreur, en 2008, et c'était vraiment pas encore répandu, ça a pris plusieurs années pour l'être, mais c'est encore très très récent. Enfin, on a vraiment aucun recul sur à quel point ça va encore se développer les prochaines années. Donc il y a ce temps-là, il y a le temps de l'écriture qui, lui, au contraire, pour un romancier, est un temps assez long. Enfin, moi, quand voilà, je vous dis que j'ai commencé en 2012 à m'intéresser à ce sujet, que mon livre est finalement sorti en 2017, c'était encore relativement rapide, je trouvais, pour faire ses recherches et condenser tout ça dans un roman. Et puis, il y a peut-être aussi le fait que d'une génération d'écrivains... Enfin, je sais pas, en fait, moi je suis franco-suisse, mais je vis en Suisse, j'ai toujours vécu en Suisse, et il y a une vitalité vraiment de la littérature qui est assez, assez folle, en fait, auprès de, voilà, des jeunes auteurs qui, aussi la notion de l'auteur change un petit peu, c'est-à-dire, je pense qu'il faut se défaire un peu. Moi, encore une fois, j'ai fait mes études en Suisse, mais j'ai fait des études de littérature où j'ai étudié que des grands auteurs français, dans cette image de la tour d'ivoire qu'il faut créer dans la souffrance, la solitude, etc. Il faut s'intéresser à des sujets sérieux et la technique n'est pas un sujet sérieux. Et peut-être que tout ça, on le remet un petit peu en question. Et voilà. Et aussi que, cette connexion, cette connectivité dans laquelle on vit maintenant, quel que soit notre âge en fait, mais on ne peut pas faire comme si elle ne nous apprenait pas des choses sur le monde qui nous auraient demandé d'autres efforts avant et beaucoup plus de... un autre travail en fait. Maintenant, en quelques clics, je peux savoir tellement de choses sur tout en fait, presque tout, que ça forme forcément ma pensée et ce que j'ai envie de raconter. Je pense que petit à petit ça change et il y a eu des romans sur qu'est-ce qu'on fait des déchets numériques par exemple qui sont envoyés, je pense un roman qui s'appelle Les fils conducteurs de Guillaume Poix, il y a eu un roman sur le transhumanisme de Pierre Ducrozet, L'invention des corps qui s'est sorti au même moment que mon livre et qu'on avait mis en parallèle, mais en fait parce qu'il parlait de technologie mais de manière vraiment très différente. Je pense qu'il y a plusieurs, il y a sûrement plusieurs paramètres qui concordent. Là, c'est ce qui me vient à l'esprit.
Ouais. D'accord, merci. Et du coup, vous êtes d'accord aussi, j'ai bien compris. Est-ce que c'est aussi une question de l'âge ou de génération, la présence dans la littérature?
Oui,
pas forcément.
Parce que par exemple, moi, j'ai beaucoup été sensibilisée aux effets et aux premiers effets, je dirais, du numérique dans mon premier job où j'étais rédactrice pour un site internet. Et moi, j'avais 20 ans, mais mon patron en avait 45 et c'était le premier, c'était un journaliste de formation, mais c'était le premier à dire « Dans 5 ans, tout se fera sur YouTube ». Et quand il disait ça en 2010, on lui riait un peu au nez, mais c'était quelqu'un qui, en fait, avait une analyse très, très fine et complète de la situation et qui savait que ça allait arriver. C'était pas du tout ma génération, donc en fait peut-être que je suis même surprise en fait quand je vais assez souvent parler de ce livre dans des classes, les gens qui ont moins de 15 ans, je dirais ça les préoccupe pas du tout en fait que ce qu'ils utilisent ce soit source de pollution, leurs données numériques, en fait ça les préoccupe pas tellement, c'est quelque chose qui vient après, donc c'est pas plus on est jeune plus on va être sensible à ça.
Ouais. D'accord, merci.
Oui, Monsieur König.
Oui, je voulais ajouter une petite réflexion concernant la relation entre le progrès technologique d'un côté et le changement de la société, parce que il y a des des positions, on va dire, différentes par rapport pour expliquer cette relation. Il y a d'un côté des gens comme le philosophe français Bernard Stiegler qui parle d'une disruption causée par la numérisation, donc une disruption dans la société, c'est-à-dire il voit le changement technologique à l'origine de changements de la société, de changements qui sont pour des gens comme, pour des penseurs comme Bernard Stiegler, assez problématiques, on va dire. Et de l'autre côté, il y a des philosophes, des sociologues, comme, je prends pour exemple, le sociologue allemand Armin Nasei, qui a publié récemment un livre concernant la numérisation et la société. Et donc, il présente une thèse complètement différente de celle de Stiegler. Donc, il soutient que ce ne sont pas le changement du système technique qui cause des changements de la société, mais qu'il y a dans la société moderne des besoins qui sont déjà là, c'est-à-dire des structures qui sont à l'origine des inventions techniques qui les causent. Donc, il renverse la causalité. Puis après, il donne des exemples. Il évoque par exemple la tendance vers, je ne sais pas si on dit en français, l'auto-optimisation, c'est-à-dire la tendance vers le perfectionnisme, qui est une signature de la société moderne. Et il ajoute que les outils numériques comme les chaînes Instagram ou YouTube fournissent des modèles et les normes pour ce perfectionnisme dans la société. Donc c'est une question qui s'adresse à tous les interlocuteurs. Est-ce que vous êtes d'accord plutôt avec Stiegler ou bien plutôt avec Armin Nasei, donc par rapport à la causalité entre changement de la société d'un côté et changement ou progrès technologique de l'autre? Je ne sais pas, bon, Martine, c'est vous qui doit
distribuer. Poser la question à Madame Stemberger, peut-être.
Après tout, les approches me semblent à la limite compatibles, puisque c'est un processus d'interaction très très complexe. Je ne dirais pas que c'est vraiment une dynamique unilatérale, mais c'est quelque chose qui se trouve perpétuellement interaction. Et c'est aussi un point important que vous avez mentionné tout à l'heure, Haute-Seigne, que nous sommes de toute façon encore pris dans cette transformation digitale de notre société. Une transformation, après tout, très radicale, au cours d'une période très courte, historiquement parlant. Et comme toujours, il est très difficile de prendre du recul, de réfléchir de l'intérieur sur une situation qui ne relève pas encore de l'histoire catégorisée et catégorisable. Et là, il me semble que non seulement les sciences, mais aussi justement la littérature peut être capable de nous offrir cette espèce de recul esthétique, un point de vue ou plutôt une multitude de points de vue sur ce monde en évolution et sur nous-mêmes aussi dans ce contexte digital, qu'elle possède aussi sa dynamique, sa sagesse peut-être à elle, par-delà même l'expertise et l'intention de l'auteur, et que c'est là que réside aussi son potentiel, non seulement esthétique mais aussi éthique. Et en ce qui concerne justement cette thématique dans la littérature de l'extrême contemporain, il me semble aussi tout à fait intéressant de situer votre roman Haute-Seigne dans ce contexte littéraire et d'essayer de le mettre un peu en rapport avec d'autres textes, d'autres romans de l'extrême contemporain qui problématisent également, qui commencent à problématiser la numérisation, ses conséquences de par votre imaginaire techno-poétologique, votre structure narrative aussi, vous proposez une approche singulière de la mathématique en même temps. Et il me semble qu'une toile large comme Le Monde, parue en 2017, participe déjà d'une espèce de tendance qui s'est accentuée encore au cours de ces dernières années avec certains autres romans qui adresse cette problématique du digital, ce désir anachronique aussi de déconnexion, de potentiel dystopique de la numérisation. Nous reparlerons peut-être tout à l'heure de l'œuvre de Yulitze dans un contexte allemand. Dans la littérature de langue française, on pourrait songer par exemple à Notre vie dans les forêts, ce roman dystopique de Marie Darussec que vous connaissez peut-être, publié la même année, 2017 justement, ou bien encore Arcadie d'Emmanuel Bayamaktin, sorti en 2018, c'est un roman qui évoque à son tour une utopie extrêmement ambivalente, en fait très dystopique, construite en dehors et contre les champs digitales. Et encore, trilogie, disons, Vermont Subutex, Virginie Despentes, qui se situe avec une toute autre approche dans ce même champ de tension, n'est-ce pas, qui raconte aussi une espèce de tentative de résistance à la numérisation. Là, nous n'avons pas de projet de grande panne globale dans ce roman, mais quand même une tentative d'abstinence digitale dans ce groupe qui se forme autour du protagoniste et qui revendique lui aussi son droit à la déconnexion. C'est votre formule, bien sûr, Hussein. Une réflexion très critique sur l'Internet, sur les techniques de lynchage médiatique et cybernétique, sur Twitter, sur le danger de l'auto-exposition totale du sujet, etc. Et à cet égard, donc, la littérature pour revenir peut-être à ce que vous venez de dire tout à l'heure, Martin Brown, littérature comme miroir, hein, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappée, en fait, dans votre concept aussi, et je suis d'accord avec Hussein que, bien sûr, ça, c'est un miroir qui n'est pas du tout obligé d'être fidèle. Ça peut être un miroir déformant, complexe, un miroir grossissant qui permet de mettre en relief certains aspects presque cachés. Mais c'est aussi une métaphore d'ailleurs qui nous renvoie à ces rapports complexes entre la littérature et le social, entre la littérature et la politique aussi, parce que j'ai trouvé d'emblée assez frappant votre recours à cette conception de littérature comme miroir de la société. Vous venez de citer les rouges et les noirs, puisque de toute façon cette conception n'est pas non plus une évidence universelle et historique. Et vous l'avez mentionné, dans le contexte français, cela renvoie très concrètement au 19e siècle, au romancier du réalisme, du naturalisme, avec cette fameuse définition du roman Conan Stendhal, et que lui cite d'ailleurs Saint-Réal, et il reprend après cette métaphore dans son roman. Et j'ai même apporté les romans parce que je trouve assez frappant la manière dont cette métaphore du miroir revient plus tard dans d'autres passages du texte. Donc d'abord le miroir qu'on promène le long d'un chemin, puis le miroir qui se promène sur une grande route, etc. Et plus tard dans le roman encore, et je voudrais très rapidement citer ce passage qui me paraît pertinent pour notre réflexion aussi, parce que le roman lui-même propose alors une réflexion critique sur cette métaphore du miroir. La politique, reprend l'auteur alors, est une pierre attachée au cou de la littérature qui, au moins des 6 mois, la submerge. Et par contre, alors, l'éditeur de reprendre, si vos personnages ne parlent pas politique, ce ne sont plus les Français de 1830 et votre livre n'est plus un miroir comme vous en avez la prétention. Donc, entre littérature et politique, cette idée du roman miroir de la société nous renvoie pour l'essentiel à l'histoire littéraire, à peu près, de Balzac à Zola. Et à ce propos, très rapidement, je veux signaler quand même un aspect, un phénomène que je trouve assez frappant en ce qui concerne aussi les attentes sociales envers la littérature, que véhicule aussi, après tout, votre question, puisque, après tout, la littérature, assez essentiellement, c'est aussi l'usage que nous en faisons. Et là, vous l'avez probablement remarqué, qu'il y a ces dernières années, dans la critique littéraire en France, un peu cette recherche presque acharnée d'un nouveau Balzac, hein, justement dans la littérature de l'extrême contemporain. C'est d'ailleurs aussi le titre d'un article de Camille Jourdan, paru en 2016, pourquoi cherche-t-on toujours ce nouveau Balzac, hein? Et dans cette catégorie de nouveau Balzac, nous retrouvons par exemple Mathieu Sénard, Aurélien Bélanger, Virginie Despentes encore, Michel Welbeck, bien sûr, en tant qu'héritier de Balzac, en tant que sociologue littéraire. Bref, la critique a tendance à ranger dans cette catégorie des œuvres assez hétérogènes, après tout. Et vous voyez aussi que cette recherche d'un nouveau grand roman réaliste, d'un nouveau Balzac, traduit aussi, je trouve, ce désir, cette nostalgie d'une littérature susceptible de parler de manière pertinente de notre société, qui constitue un miroir plus ou moins fidèle, en même temps critique, par contraste avec une littérature décrite comme purement formaliste, autoréflexive, fermée sur elle-même. Au début du XXe siècle, nous avons aussi cette espèce de réaction contre une telle littérature héritière de nouveaux romans, abordée quelquefois sous un angle plutôt réducteur, évidemment. Et justement, sur le fond des crises, des conflits sociaux des 2 dernières décennies et maintenant de la crise globale actuelle, se remanifeste aussi ce désir d'une littérature capable d'expliquer, de refléter, hein, la société, le monde, de pointer, de prévenir peut-être d'éventuels problèmes, crises, etc. Et c'est ce désir aussi nostalgique et à la fois très politique du grand roman, du grand écrivain dans la tradition un peu du 19e. C'est cela qui m'a beaucoup frappée lorsque j'ai lu votre recours justement à cette métaphore traditionnelle, mais tout à fait polyvalente, de la littérature comme miroir. Hein. C'est une petite réflexion que je souhaitais ajouter à ce propos. Il y aurait tant d'autres choses encore à dire que les auteurs que je viens de mentionner, parce que là, nous retrouvons justement dans la critique littéraire aussi ce topos, hein, lorsqu'il est question de Vernon Subutex, par exemple, comme cette trilogie miroir des années 2000, etc. Donc là, il faut parler aussi des attentes de la société, du doctorat, de la critique, etc., envers la littérature. J'arrête là, hein.
Oui, bien sûr.
Pour l'instant.
Oui, merci. Et les étudiants, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour le moment?
Alors, je suis en train encore de réfléchir à ce que vous avez dit, parce que je me demande quand même, est-ce que, si j'ai bien compris, est-ce que vous voulez dire aussi, Martina Steinberger, que la société cherche ce miroir dans la littérature aussi? Est-ce que c'est polyvalent alors?
Oui. Pas nécessairement la société en tant que telle. Hein. Après tout, il faut aussi être réaliste en ce qui concerne l'impact concret du public atteint par des œuvres littéraires. Ce serait peut-être un peu naïf que d'assumer que notre société se compose de lecteurs et de lectrices, hein, même si dans notre petite bulle académique, c'est quelque chose de vital et de quotidien. Il faut faire attention aussi à ne pas prendre notre milieu pour la société tout court, ne pas oublier peut-être que la majorité de la population ne lit pas ou très peu. Mais quand même, oui, en ce qui concerne cette partie, disons, de la société qui s'intéresse activement à la littérature, oui, ça c'est aussi un processus d'interaction. Hein. Cela dépasse aussi les intentions des auteurs quelquefois, les intentions des lecteurs, puisque dans les textes se trouvent inscrites quand même aussi des choses qui ne vont que se manifester que plus tard. Et oui, c'est très important aussi, je trouve, que de voir non seulement le texte en tant que tel, mais aussi et surtout les usages que nous faisons de la littérature, les attentes que nous articulons envers la littérature, ce que nous en faisons, ce que nous en attendons aussi.
D'accord, merci.
Cette volonté aussi de chercher ce miroir, ce système d'alerte, pour reprendre votre autre formule dans votre concept dans la littérature. Cela dit, il faut peut-être aussi plutôt mettre en garde contre une telle vision quand même réductrice, un peu simplificatrice, utilitariste de la littérature, puisque la littérature, après tout, n'est pas là d'abord pour servir de quoi et à quoi que ce soit, ce qui bien entendu n'est nullement un plaidoyer pour littérature gratuite, l'art pour l'art. Bien au contraire, je suis profondément convaincue de la pertinence aussi sociale et politique de la littérature, mais là se passe de manière plus complexe et plus indirecte, et ce ne sont pas nécessairement les textes les plus directement engagés, la littérature à thèse, qui est la plus efficace à cet égard, plutôt au contraire.
Merci beaucoup. Alors, nous avons déjà traité la littérature comme miroir de notre société, et ça veut dire les médias, comme la littérature, bien sûr, sont capables de traiter les crises. Et je dirais, la cible d'une société, c'est toujours d'éviter les crises. Et par exemple, pour éviter les cataclysmes comme la crue ou le tsunami, on a installé les systèmes d'alerte. Et qu'est-ce que vous en pensez? La littérature est-elle aussi capable de servir de système d'alerte, peut-être face au risque de la numérisation? Madame Seigne, qu'est-ce que vous en pensez? La littérature comme système d'alerte?
Je trouve intéressant ce que disait Martina Steinberger de parler des attentes du public lecteur, lectrice ou du public en général, mais il y a ces attentes de trouver du sens, j'ai l'impression, de manière générale, de trouver du sens dans un récit, et que ce soit un récit littéraire, que ce soit le récit proposé par les médias, les politiciens, etc. Et tout particulièrement quand il y a un tsunami qui arrive, c'est-à-dire quand il y a une crise, quand il y a quelque chose, il faut être réaliste, comme vous disiez aussi, sur les effets possibles de la littérature, sur la diffusion aussi possible d'une idée à travers la littérature. Mais je pense que cette fonction-là de chercher du sens à ce qui arrive à travers des textes est vraiment très forte. Et je ne sais pas si vous avez eu aussi ce phénomène en Allemagne pendant les 6 derniers mois, mais on demande beaucoup maintenant, parce que c'est une période de crise, dès le 15 mars, on demande aux écrivains de penser à d'exprimer qu'est-ce que ça leur inspire, cette crise et ce confinement, etc. Et moi, j'ai trouvé ça très... Enfin, il y a eu ça en France de manière très rapide et presque un peu brutale, qu'il y a eu des écrivains qui ont tenu des journaux de confinement, qui ont publié leur journal de confinement, etc. Et en fait, moi, j'ai reçu aussi des demandes comme ça. Je trouve ça compréhensible qu'on se tourne vers des gens qui peut-être ont plus l'habitude de mettre en mots leurs pensées. Je sais pas, c'est peut-être un peu un cliché, mais et en même temps, c'est une lourde responsabilité de proposer un récit presque dans l'immédiat par rapport à ce qui se passe. Mais il y a une demande de ça. Et moi, en fait, une de mes lectures récentes, là, c'était l'espèce fabulatrice de Nancy Houston, où elle parle justement de ce besoin de... c'est même plus fort qu'un besoin. Ça vient des neurosciences. Notre esprit fonctionne comme ça. Donc, on a... dans une vie, on se crée des récits pour soi-même, on est influencé par les récits qu'on entend, etc. Et moi, je trouve ça totalement, totalement fascinant, évidemment du point de vue de quelqu'un qui écrit, mais d'un individu tout court. Donc, à partir de là, est-ce qu'on peut servir de système d'alerte ? On ne peut pas lire l'avenir, mais on peut peut-être proposer du sens qui va montrer une direction, qui va donner des possibilités. Et d'ailleurs, on sait que ce qu'on considère comme des bons romans d'anticipation, par exemple, c'est pas parce qu'ils parlent du futur, mais c'est parce qu'ils parlent bien du présent. Même s'ils situent l'histoire dans le futur, le passé, en fait, ça, c'est pas important. Mais s'il y a des choses comme 1984 ou comme The Handmaid's Tale qui sont revenus très actuels, c'est parce que ça correspond à une préoccupation actuelle. Et ça correspondait peut-être aussi à celle du moment où le livre a été publié, mais la littérature, je pense que oui, ça peut être un système d'alerte, mais modéré. C'est surtout une manière de donner du sens. Ensuite, quel sens va être suivi, lequel va être juste ou non, ça, on ne peut pas le savoir maintenant.
Merci beaucoup. Alors, et Madame Stemberger, qu'est-ce que vous pensez, la littérature comme système d'alerte?
Je dirais encore que la littérature, donc, s'il n'est pas un simple miroir, elle n'est pas non plus un trop simple système d'alerte. Mais ce qu'elle peut faire, vous connaissez ce terme de Jungling, interdiscours, ce qu'elle peut nous offrir, c'est quand même une espèce de contre-discours critique sur le présent, d'abord, problématisant des discours politiques, sociaux, économiques, quelquefois manipulateurs. La littérature, bien entendu, là-dessus, je suis complètement d'accord avec Hudson, il n'est pas affaire de prophétie. Hein. Et puisque nous sommes quand même dans le domaine de la littérature, là, de la critique académique, il vaut peut-être mieux ne pas recycler des pareils topos journalistiques sur la littérature, les romans comme prophétie, etc. On a eu cela ces dernières années avec le dernier roman de date de Michel Houellebecq, Sérotonine, etc., ce roman qui thématise tant qu'entre autres choses l'engagement de Zinignanos, une révolte des agriculteurs français, etc., et qui a été interprétée ensuite sur le fond du mouvement des Gilets jaunes comme une espèce d'œuvre prophétique. C'est d'ailleurs un topos qui a été beaucoup, beaucoup recyclé, surtout dans les feuilletons allemands et commenté de manière plus critique quelquefois en France. Hein. Également, la trilogie de Dépente que vient de mentionner tout à l'heure a également été interprétée comme une espèce de prophétie, etc., ce qui témoigne encore d'une espèce de surinvestissement de la littérature qui implique des lectures réductrices, puisque la littérature, après tout, n'est pas affaire de prophétie. Elle est affaire d'esprit critique, elle est affaire d'attention, affaire de vigilance, cela oui, tout à fait, face à des évolutions problématiques. Et là, une œuvre littéraire peut contribuer à mettre en lumière, à cadrer, à contextualiser certains aspects problématiques, peut-être dangereux, des sociétés occidentales contemporaines, les exigences de fonctionnement envers l'être humain, etc., à nous rendre collectivement peut-être un peu plus lucides à cet égard. En ce qui concerne, puisque Hudson vient d'en parler, la crise de ces derniers mois, oui, je suis perçue en fait cette attente très lourde, cette charge envers les écrivains professionnels. D'autre côté, c'est vraiment aussi l'aspect thérapeutique et communautaire, social de la littérature qui a été très important pendant ces 6 mois, dans le domaine d'ailleurs aussi de la littérature des amateurs, des amatrices. Je ne vais pas être trop long pour me parler là-dessus, mais actuellement, je travaille sur un projet de recherche sur la fin-fiction dans l'extrême contemporain. Et là, par exemple, dans ce domaine de la littérature d'amateurs, dès février, dès mars, la thématique du Covid, de la pandémie a été tellement présente, il y a eu un tel essor vraiment aussi de cet esprit communautaire, comme une manière aussi de surmonter, de confronter au moins à titre individuel dans le cadre de ces petites communautés, la crise, il y a vraiment eu un essor sans pareil, des portails en ligne qui ont vraiment connu alors des page views et une actualisation tout à fait extraordinaire au cours de mars et d'avril notamment. Donc là, visiblement, à beaucoup de monde, même par-delà la littérature professionnelle, la littérature a vraiment encore une autre fois fait ses preuves en tant qu'une espèce de thérapie, entre guillemets, bien évidemment, quelque chose, une stratégie qui a vraiment très très concrètement à aider à comprendre, à essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, de se préparer et de trouver des solutions pour surmonter cela, au moins à titre individuel.
Merci beaucoup.
Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce qu'il reste quelque chose qui n'a pas été tout à fait clair?
Bien sûr, oui. Merci. Et, je vais aussi demander aux étudiants si vous avez une opinion.
Moi, il y a pas mal de choses, en fait. Je crois déjà le terme discours et peut-être aussi le terme système d'alerte. Je suis tout à fait d'accord que peut-être déjà le terme système d'alerte, c'est un discours et c'est un peu problématique parce que moi, je trouve intéressant que la France a réagi aussi comme ça. Et moi, je trouve la façon assez brutale aussi de dire, voilà, alors on sait que la littérature est un système d'alerte, alors il faut écrire quelque chose pour la société aussi. Et ça, je trouve assez problématique. Et du coup, je me demande aussi, peut-être un système d'alerte, ce terme déjà, est un discours pour la littérature, mais qui est difficile parce que c'est un terme qui est forcé à la littérature. Après, ça c'est une avis. Et après, je veux ajouter quand même quelque chose. Je veux revenir à un point que Martina Stemberg a dit, que si on parle de la société, c'est difficile. Et vous avez tout à fait, je suis tout à fait d'accord, que la société, maintenant, on parle des lecteurs et des lectrices. Et du coup, c'est pas forcément toute la société. Et du coup, si on dit voilà, la littérature est un système d'alerte, il faut parler quand même du groupe cible hein, et pour qui ça peut être un système d'alerte aussi. Parce que je crois quand même avec la littérature, on parle des personnes qui lisent aussi. Et pour eux, bien sûr, c'est aussi une manière de réfléchir autour des problèmes aussi. Ça peut être la numérisation, ça peut être aussi Covid, ça peut être la crise Corona. Mais après, à mon avis, c'est quand même, si on veut utiliser vraiment ce terme système d'alerte, je crois qu'on ne peut pas dire que c'est un système d'alerte pour tout le monde quand même. Et ce n'est pas le groupe cible, on parle vraiment d'un petit groupe cible si on compare avec la société, à mon avis.
Oui. Tout à fait d'accord, et on pourrait peut-être aussi ajouter que, en ce qui concerne donc vraiment la portée, l'impact de ces littératures, que même dans les cas où, historiquement parlant, des écrivains, de par leur autorité, ont plutôt exceptionnellement pu influencer plus directement le débat public politique. Cela se passe plutôt en dehors du domaine de la fiction littéraire. Hein. Vous connaissez évidemment ces exemples hyper célèbres, Émile Zola, Essange Accuse, etc., cette lettre ouverte au président de la République, alors Félix Faure dans le cadre de l'Eva Dreyfus. Sinon, même au XIXe siècle, et même chez les très grands écrivains, très connus, leur engagement, leur combat littéraire ont une influence beaucoup plus indirecte. Hein. Ce qui se passe, c'est que dans certaines situations historiques d'exception, la littérature peut se voir investie d'une fonction politique plus concrète, non pas dans le sens qu'elle pourrait empêcher des crises, mais par ce qui n'est pas sa tâche, cela dépasse son domaine et ses compétences, mais par exemple dans le sens qu'elle constitue un encouragement, un appel à la vigilance, à la solidarité, à la résistance aussi. Et dans ce contexte, en effet, on pourrait penser à la Seconde Guerre mondiale, à la résistance française. Ça, c'est par exemple un tel moment où la littérature surmonte et dépasse sa relative inefficacité dans la société bourgeoise en temps normaux, si vous voulez. Ce qui était aussi le but des avant-gardes, évidemment, et ce qui est très souvent vécu par les écrivains en question comme une gratification. Je pense à un exemple sur lequel je travaillais il y a quelques temps, Louis Aragon et Elsa Triolet, que vous connaissez. Hein. Ces années de la résistance, malgré des circonstances de vie extrêmement difficiles et même dangereuses, ce sont pour ce couple des années de véritable bonheur littéraire, des années d'une productivité extrême, puisque pendant ce temps, ce qui se passe, c'est que l'utilité sociale et politique de leurs activités littéraires est immédiate et immédiatement perceptible. Il y a comme une convergence temporaire, très satisfaisante, entre conception de l'art personnel, cause du peuple, collectif, etc. Et après coup, Triolet va aussi donc considérer cette littérature de résistance comme une espèce d'avant-garde historique, non pas à cause d'éventuelles innovations formelles, mais par son efficacité sociale, et s'ensuit presque inévitablement après la désillusion. Lorsque se rappelle que lorsque la libération alors perdait ses belles couleurs, ma littérature moi-même, écrit Triolet quelque part, je cite de même, nous semblions perdre aussi nos qualités. Hein. Et heureusement, actuellement, nous ne sommes pas en situation de guerre, mais dans la littérature contemporaine, il y a quand même aussi des écrivains politiquement engagés, mais qui séparent souvent, et pour de très bonnes raisons, cet engagement social et politique de leur travail littéraire. Hein. Un exemple que l'on pourrait citer, mais tout à fait rapidement, hein. Marie de Ressac, que je citais tout à l'heure, hein, qui considère, elle, la fiction littéraire, d'ailleurs, aussi comme quelque chose de tout à fait politique. Une belle phrase que je vous ai apportée quand même. Alors, c'est Marie de Ressac qui considère que toute écriture est politique, puisque toute écriture est une vision du monde, et que, personnellement, elle a la conviction que c'est dans la fiction qu'on va changer le monde. D'autre côté, elle établit elle-même très clairement la différence entre création littéraire et engagement politique direct. Après l'attentat contre Charlie Hebdo, elle va publier un hommage aux victimes au journal, elle va soutenir la candidature des royales aux présidentielles, etc. Mais lorsqu'elle s'est définie aussi comme explicitement comme féministe, elle y ajoute immédiatement dans la vie. Par rapport à son œuvre littéraire, elle refuse de se faire mettre de rentrer dans une catégorie trop simple. Hein. Cela dit, là-dessus, je finis cette mini-réflexion. Il faudrait aussi éviter de construire une dichotomie trop simple entre la littérature et la vie, puisque notre monde, après tout, même si nous ne sommes pas une société de lecteurs, de lectrices, quand même notre monde fait aussi et surtout de discours, de textes. La littérature, elle aussi, fait quand même aussi partie de la vie. Elle nous présente aussi des directions, des pistes possibles de notre vie intellectuelle, mentale, morale. Hein, elle fait aussi partie de notre existence dans un sens très concret. Et ce que la littérature, ce que la fiction aussi vraiment peut faire dans ce contexte, c'est favoriser une certaine prise de conscience, c'est nous alerter sans servir de système d'alerte, mais quand même nous alerter. Les lecteurs et les lectrices du roman d'Haute-Seigne, au moins, seront désormais beaucoup plus sensibilisés à l'impact environnemental et social, à cette vulnérabilité matérielle de l'Internet avec tout ce que cela comporte comme danger potentiel. Et plus généralement, la littérature pour nous inciter à la vigilance, nous aider vraiment à mieux comprendre ce qui est en train de se passer et peut-être de se préparer.
Merci beaucoup. D'accord. En regardant ma dernière question, je veux me retourner à Ulysse. Ulysse décrit dans son utopie Corpus Delicti la contexture d'un état de surveillance dans le centre de santé. Et les méthodes dictatoriales sont réalisables à cause du progrès technique. Et pensez-vous que le danger, la contexture d'un état de surveillance est probable? Probable pour notre société ou peut-être probable à l'avenir? Peut-être les étudiants commencent.
Oui, ça fonctionne maintenant, pardon. Pour moi, oui, ça peut être probable. Si on voit l'exemple d'État de Chine, c'est un état de surveillance, c'est clair, avec le social scoring, vous le connaissez? Oui, et bien sûr, on trouve aussi en Allemagne, dans les croisières, dans les rues, les caméras de surveillance surtout. Et je dirais oui, c'est possible de penser que la technologie va se développer, va se montrer surtout et on va avoir Ça peut être en état de surveillance, peut-être, mais c'est quelque chose de démocratique et c'est difficile d'expliquer, c'est du politique, mais quand même, je pense que ce serait possible.
Oui, d'accord. Excusez-moi, la connexion n'était pas bien maintenant, mais maintenant, je vous écoute. D'accord. Peut-être l'opinion d'autres signes.
Oui, je suis d'accord avec Cassandra Klaus, c'est ça?
Oui.
Je pense que c'est un risque, évidemment. Après, je me faisais la réflexion que quand on parle des risques technologiques, enfin des risques de surveillance, c'est parce que on passe par quelque chose d'extérieur, qui est le politique, le rapport entre le politique et les pouvoirs économiques. Et en fait, ce qui se passe peut-être en ce moment, c'est une très bonne occasion. On voit que le numérique est un petit peu un des grands vainqueurs pour l'instant de cette crise. D'ailleurs, on se réunirait pas s'il n'y avait pas ça. Et donc, c'est une excellente occasion d'essayer de penser le numérique tel quel et voir qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, où est-ce qu'il ne doit pas aller, et de quoi il doit se distinguer. Parce qu'en fait, on voit bien qu'effectivement, la problématique, c'est le rapport entre le politique, l'économique, la surveillance ou non, qui contrôle qui. Mais qu'en fait, la question, c'est quel bon usage on pourrait faire de cette technologie que maintenant on a. Et il y a des bons usages qu'on peut faire. Et je pense qu'il y a le parallèle avec d'autres domaines qui peut être fait aussi. Je pensais par exemple aux OGM. Évidemment, on sait que c'est pas qu'on préfère ne pas modifier des choses vivantes pour qu'elles soient, par exemple, moins nutritives et plus dangereuses. En revanche, c'est utile pour soigner des gens des fois. Donc, encore une fois, on peut pas être dans la dichotomie. Et puis, voilà, je pense qu'en ce moment, ce risque est réel, mais que c'est une bonne occasion pour le penser quelque part de manière globale, avec tous les enjeux qu'il a. Et qu'effectivement, on a aussi parlé de démocratie, comme on a la chance de ne pas vivre en Chine, les barrières pour nous empêcher d'arriver là sont aussi différentes.
Oui, d'accord. Sébastien Nerga, est-ce que tu veux...
Oui, je suis tout à fait d'accord, mais seulement pour mentionner encore une petite anecdote. Alors, moi, j'ai devé lire ce livre pour le baccalauréat et moi, pour dire la vérité, dans cette époque-là, j'ai pas très bien compris ce que Yulitse veut me dire en fait, pas tout à fait, mais maintenant je trouve de plus en plus et surtout cette année, j'ai un bon lien avec ce livre, j'ai relu le livre aussi parce qu'en fait je trouve, et ça peut-être on peut utiliser quand même le terme, même si, comme j'ai mentionné, c'est un peu problématique, mais on peut utiliser le terme, encore une fois, le système d'alerte aussi. Elle a mentionné des choses qu'on n'avait pas encore tout à fait en Allemagne. Mais maintenant, si on va, par exemple, la surveillance dans les rues, mais déjà, quand je commence avec l'application de COVID ou l'application Corona, ça s'appelle en allemand, ça crée des liens avec cette littérature, à mon avis. Et si je lis ce livre maintenant, encore une fois, je vois vraiment le message différemment. Et ça, je trouve super intéressant. Et bien sûr, c'est aussi, si vous voulez, c'est aussi un miroir, ou c'est aussi un miroir pour moi, pour dire, voilà, est-ce que je veux vraiment avoir cette dystopie peut-être, ou est-ce que je veux vraiment avoir une vie comme ça? Et voilà, et peut-être ça peut influencer aussi ma décision si je vais au App Store pour acheter maintenant l'application Corona. Du coup, c'est un peu le lien avec la littérature et la vie actuelle aussi, et bien sûr avec le livre de Yulitse.
Oui, tout à fait d'accord. Et à la fin, Madame Stemberger?
Alors là, il y a déjà une accumulation de questions assez diverses maintenant. Je voudrais revenir pour un petit moment à ce que vient de dire Cassandra Klaus, puisque vous avez mentionné justement l'exemple chinois qui est symptomatique à plus d'un titre. Je vous citerai par exemple aussi l'écrivain franco-chinois Dai Sijie, que vous connaissez bien sûr avec Balzac et la vitailleuse chinoise, et qui lui par exemple compte beaucoup sur Internet justement comme facteur peut-être principal de la démocratisation de la Chine. dans le gouvernement aussi encore, ça vous le savez bien sûr toutes et tous, une politique assez intransigeante du contrôle face à l'Internet, bien au-delà d'ailleurs du domaine du politique, de l'explicitement politique. Je parlais tout à l'heure brièvement de cette littérature d'amateur qu'est la fanfiction, et c'est un détail symptomatique qui m'a probablement échappé à ceux et celles qui ne s'intéressent pas particulièrement à ce domaine. En 2020 encore, le gouvernement chinois a fait bloquer en Chine l'accès à Five of Our Own et Free, qui est l'un des deux plus grands sites internationaux de fanfiction, genre démocratique par excellence, à l'occasion joyeusement subversif. Mais, et là je suis complètement d'accord avec Haute-Seigne, les technologies digitales sont justement cela, des technologies, des outils qui peuvent évidemment déployer une certaine dynamique propre, qu'il s'agit alors d'analyser, d'essayer de contrôler, mais ce qu'il s'agit d'interroger, ce sont les usages individuels comme collectifs que nous en faisons. La digitalisation en tant que telle peut favoriser la démocratisation de la société, comme plus spécifiquement de la littérature, d'ailleurs dans ce sens aussi un peu d'une littérature sociale telle que l'envisage François Bon, et le contraire. Internet, cela peut être à la fois un dispositif de contrôle totalitaire et un espace utopique, un espace de subversion, des résistances, un espace de partage. Internet, d'ailleurs, vous le savez, d'après Niklas Luhmann, n'est pas un média de masse au sens traditionnel à cause de son fonctionnement multilatéral et sa prédisposition aux usages individuels qui créent les conditions pour le déploiement d'une culture politique littéraire, de la réciprocité et de l'interaction. Dans votre roman, Haute-Seigne, d'ailleurs, vous pointez aussi justement cette profonde ambivalence d'Internet dans une perspective politique, en rappelant aussi les mesures anti-Internet prises par divers régimes ou gouvernements aux aspirations totalitaires. Et Internet, après tout, c'est aussi un espace de savoir partagé, disséminé, donc instance de la démocratisation aussi d'un savoir désormais beaucoup plus accessible. Cela concerne très très directement notre domaine académique, évidemment. Cela donc pour la question de la démocratisation, et brièvement peut-être à propos de ce roman que vous venez aussi discuter Corpus Delicti de Iulizie, qui en effet se lit tout à fait différemment dans le contexte de cette année d'exception 2020. Évidemment, c'est une dystopie. Hein. En tant que telle, c'est aussi une espèce de mise en garde, peut-être. Ce n'est pas, heureusement, un portrait réaliste de la société du présent, même du proche futur. C'est un texte qui, d'ailleurs, aussi adresse moins à la numérisation en tant que telle, la présupposant plutôt comme une condition d'existence du fonctionnement de la société totalitaire où se déroule l'action de ce roman dystopique vers le milieu du XXIe siècle. Cette dictature sanitaire hantée par la peur de la maladie, de la contagion, dont le portrait peut sembler en effet de toute actualité sur le fond des débats controversés de la polarisation sociale et idéologique en temps de crise. En même temps, cela s'inscrit évidemment dans une très longue et riche tradition littéraire. Hein. C'est d'ailleurs aussi cette problématique de l'ambiguïté entre utopie et dystopie. C'est quelque chose qui, si cela vous intéresse, c'est un passage très intéressant sur ce sujet, dans ce œuvre crucial de la littérature française contemporaine que sont les particules élémentaires de Welbeck. Il y a ce chapitre consacré à Brave New World de Huxley, un chapitre qui met en scène la discussion des protagonistes avec Bruno qui insiste sur le fait, bon, c'est sa théorie selon laquelle le meilleur du monde, Brave New World, n'aurait pas du tout été rédigé comme une dystopie, mais plutôt comme une utopie parfaite, conforme aux désirs et aux besoins de la grande majorité des humains. Et à ce propos, on peut tout à fait renouer avec le roman de Iulizie, puisqu'elle aussi décrit cette espèce de dictature trompeusement douce, une dictature soft, au nom de la santé, d'un bonheur simpliste, dont la vaste majorité de la population, en fait, s'arrange très bien. Et en tant que roman dystopique, le texte propose évidemment une représentation de choses sous forme hypertrophiée, mais Iulizie en effet traite certains aspects qu'il s'agit en effet de problématiser sous forme plus réaliste au niveau de nos sociétés actuelles. En ce qui concerne l'administration et l'accès, par exemple, aux données de santé, en ce qui concerne aussi certaines velléités d'une réorganisation des assurances santé qui tiennent compte aussi du style de vie, de l'intérêt personnel, hygiène sportive, alimentaire, sanitaire de chaque client, chaque cliente, cela ce sont des tendances très problématiques que la littérature peut nous inciter à envisager. En ce qui concerne le contexte de la pandémie actuelle, je crois quand même qu'il faut faire très attention à ne pas jouer le jeu, à ne pas soutenir comme par mégarde les des positions des conspirationnistes, complotistes, très très actifs actuellement. Inutile, je pense, de le préciser dans ce contexte. Je ne crois pas que les élites politiques et économiques soient en train de préparer une dictature sanitaire sous prétexte des Covid. Mais ce qui s'observe actuellement, c'est vraiment cette polarisation extrême de la société avec une résurgence assez spectaculaire, en fait, de très vieilles théories conspirationnistes, les plus fantastiques, très anachroniques, mais qui se retrouvent réactualisées dans ce nouveau contexte et dans le contexte de cette pandémie, justement. Se cristallise aussi un malaise diffus dans la société, dans le système politique et social. C'était très, très évident dans le cadre des récentes manifestations à Berlin. Là, il y a visiblement beaucoup d'autres choses en jeu. Hein. Un malaise beaucoup plus profond, un mécontentement plus général et potentiellement dangereux dans la société qui, là, trouve une narration qui n'est que trop commode. Et pour finir, ajoutons peut-être que le roman d'Haute-Seine, d'ailleurs, comporte, vous l'avez sans doute remarqué, les autres lecteurs, l'esquisse d'un scénario pandémique, n'est-ce pas? Puisque parmi les approches envisagées par le personnage dans le cadre d'un projet d'un vaste sabotage de l'Internet, il y a aussi l'option pandémie, qui est pourtant rapidement écartée pour des raisons éthiques, car il n'y a pas de victimes. Il y a bien entendu, il y aura des victimes d'un autre ordre, puisque la digitalisation forcée déclenche, entre autres effets mal calculés, un chômage en masse, des pillages, des émeutes. Même côté écologique, l'on ne manque de constater certains parallèles frappants avec la situation dans la première moitié de cette année 2020. Cela donc encore brièvement, plus ou moins, pour Ulysse, mais aussi un texte qu'il s'agit de considérer, bien sûr, sur le fond d'une très longue tradition de littérature dystopique qui reste de toute actualité, évidemment.
D'accord, merci beaucoup. Oui, Haute-Seine, voulez-vous ajouter quelque chose ou ce que Madame Stenberger a dit?
Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit et vous avez même un meilleur souvenir de mon texte que moi parce que j'avais effectivement oublié qu'au cours de mes recherches, il y avait cette idée de la pandémie. J'ai visité un data center au cours du processus d'écriture et on m'a dit qu'effectivement ce qui était le plus problématique c'est pas tout ce qui est spectaculaire et que j'ai finalement mis en scène dans ce roman mais c'est une simple épidémie qui empêcherait des travailleurs humains de venir dans un data center pour réparer les machines, pour empêcher les pannes, entretenir le matériel et on a souvent rattrapé voilà, on est souvent rattrapé par ses propres idées, ses propres recherches. Mais je trouve aussi important ce que vous avez dit sur le de pas verser du côté conspirationniste où il y a beaucoup de manque de cohérence en ce moment sur ce qui est dit dans les médias, sur des sortes de révoltes personnelles, comme si on découvrait maintenant qu'on était numérisé, mais en fait on l'est déjà depuis longtemps. Enfin, et quand je parlais en fait à un moment assez au début de notre échange là de rediriger l'internet, enfin c'est que si moi j'avais quand je fais une rencontre en librairie quelque chose à pour conclure en fait parce qu'on me dit bon en résumé internet c'est pas bien, évidemment que c'est pas du tout ça, c'est là donc autant trouver un usage pertinent. C'est qu'en fait, quand ça a été développé aux États-Unis dans les années 60, il n'était pas du tout question de l'Internet tel qu'il est maintenant, il n'était pas du tout question de surveillance numérique, il était question d'échanger des savoirs entre universités. Voilà, ça a été développé avec des fonds militaires, mais dans ce but-là, dans un contexte de guerre froide. Et il n'était pas du tout prévu qu'il y ait des réseaux sociaux, par exemple, qui sont quand même au niveau protection des données ce qui pose le plus problème, il n'était pas du tout prévu non plus en usage commercial d'Internet, alors que maintenant je crois que ça représente plus de 80%, 90% des sites. Et donc c'est dans ce sens-là, je pense qu'il y a une sorte de voie qui a été dessinée et qu'on pourrait un petit peu la penser différemment et la réorienter en incluant toutes ces questions qui se posent depuis. Voilà.
Oui, merci. Et malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. Et oui, je voudrais vous remercier pour votre participation active. Quant à moi, ce fut un débat extrêmement intéressant. Et merci encore une fois à Madame Stenberger et merci à vous, Haute-Seine. Et bien sûr aussi un grand merci aux étudiants et Monsieur König. Pour nos éclairages intéressants. sur la littérature et aussi Madame Stemberger, Madame Seigne, merci pour vos réflexions sur la numérisation, bien sûr. Oui, je vous souhaite une bonne journée et au revoir.
Au revoir, merci.
Bon après-midi à tout le monde. Merci. Au revoir.
Vous aussi.